Donc j'arrive de Londres après 5 ans d'expérience en agence de recrutement. Je rejoins donc une start-up robotique qui crée en fait un robot autonome qui gare des voitures pour optimiser l'espace dans les parkings d'aéroports. Donc déjà c'est un produit vraiment visionnaire. Et des fondateurs aussi qui sont innovants, donc ils ont des PhD, c'est des chercheurs, et donc ils avaient une particularité, c'est qu'ils adoraient en fait les profils extraordinaires, donc avec des compétences assez atypiques, un peu comme moi aussi quand j'ai rejoint la boîte, voilà, j'avais déjà monté une société, donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour eux. J'avais pour objectif donc de recruter un ou une ingénieure de conception mécanique, donc on avait fait voilà la scorecard, la prise de brief, puisque c'était sous la méthodologie WOO, donc une méthodologie très structurée pour le recrutement, donc me voilà prête à faire mes premiers appels pour le screening et je tombe sur ce candidat qui était passionné de mécanique industrielle et qui avait donc construit son propre garage et qui réparait en fait des voitures anciennes. Même au niveau de son verbatim oral, enfin il était très persuasif au niveau du storytelling, donc il racontait très bien cette histoire. En tout cas, c'était vraiment quelque chose qui était très fort en lui. Et là, je me dis, waouh, c'est génial, il a le mindset par rapport à ce qu'on avait donc évalué en compétences soft skills. Et là, je me dis, il faut que je présente tout de suite en fait au fondateur qui s'occupait de la partie innovation et recherche et développement. La prochaine étape, donc, c'était l'entretien technique. Le fondateur, après l'entretien, il me dit, écoute Maud, oui, il a le mindset, mais par contre, au niveau des compétences, on est vraiment en dessous, en tout cas, de nos attentes. Voilà, c'est quelqu'un qui aime mettre les mains dans le cambouis, mais nous, aujourd'hui, on a vraiment besoin de quelqu'un qui construit, en fait, et qui design les pièces. Donc, j'adore le mindset, mais en tout cas, ce ne sera pas pour ce poste-là. C'est vrai que moi, pendant l'entretien, j'ai pas forcément creusé en fait trop ces points-là au niveau de la partie digitalisation. Et donc, ben voilà, je me suis sentie très bizarre en me disant, waouh, ce candidat, il est extraordinaire. Mais malheureusement, il était trop en dessous des attentes, en tout cas sur la partie technique.
Un candidat, ceinture noire de karaté, champion du monde de voltige, parlant 6 langues ou ayant fait le tour du monde, avouez qu'il y a de quoi être impressionné. Et le piège classique est de valoriser de manière excessive les candidats disposant de telles caractéristiques, même si elles ne sont, en fait, pas vraiment pertinentes pour le poste. C'est un raccourci mental très courant qui porte le nom de biais d'extraordinaireté. Il consiste à favoriser un candidat possédant une caractéristique sortant de l'ordinaire, quitte à en oublier parfois l'essentiel, à savoir les compétences mêmes attendues pour le poste. Dans cet épisode de notre série de podcasts « Histoire de recruteurs », proposé par WeSuggest, plateforme d'évaluation des soft skills en recrutement, nous allons disséquer ce biais afin de mieux comprendre ce qui se joue lorsqu'on fait face à ces profils aux caractéristiques extraordinaires et de vous proposer des techniques pour s'en prémunir au maximum. Je suis Marie-Sophie Zambeau, éditorialiste RH, et pour aborder cette thématique, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, derrière notre micro, Maud Grenier, experte et entrepreneuse RH engagée. Ensemble, nous parlerons de l'effet waouh que l'on peut vivre dès la réception d'un CV, de la place qu'elle accorde aux caractéristiques hors du commun chez ses candidats, et tenterons de lui soutirer quelques précieux conseils pour éviter d'être aveuglé par ce biais. C'est parti! Bonjour Maud et bienvenue. Un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui et que nous puissions ainsi bénéficier de ton éclairage sur les biais cognitifs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter à nous qui tu es, ton parcours et ce qui te fait tout particulièrement vibrer dans ton métier aujourd'hui ?
Merci Marie-Sophie pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de partager le micro avec toi aujourd'hui. Je viens du sud-ouest de la France, d'un petit village de 3000 habitants. J'ai voulu voyager très jeune. J'ai voulu voilà parcourir en tout cas le monde et découvrir de nouvelles cultures. Donc j'ai pas mal vagabondé en tout cas dans différents pays lors de mes études pour tomber dans la marmite du recrutement grâce à un apprentissage notamment chez Safran. Et puis j'ai parcouru en tout cas différents pays pour explorer les différentes méthodologies de recrutement, travailler en start-up. J'ai évolué à Bruxelles, Londres, Paris, aujourd'hui voilà Lisbonne. Et ce qui me fait vivre dans mon métier, c'est au moment cette excitation où tu as trouvé le ou la bonne candidate, il y a un super beau match avec l'entreprise. Et là, quand la personne signe l'offre d'embauche, c'est le moment où je me dis, waouh, c'est ce que j'aime faire, c'est ça, c'est de faire rencontrer en tout cas une entreprise avec un talent et de faire en sorte que les process de recrutement soient aussi le plus inclusifs. Aujourd'hui, voilà, je suis entrepreneuse RH et donc j'aide des startups dans leurs problématiques de recrutement et de RH, mais aussi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Arboria, où on a réuni des freelances qui souhaitent aussi changer un petit peu cette vision du monde du travail.
L'épisode du jour est intitulé « J'ai été aveuglé par une caractéristique hors du commun d'un candidat ». Et tu as eu la gentillesse de nous raconter une anecdote personnelle sur le sujet. Comment tu t'es rendu compte que tu avais été influencé par ce biais précisément ? La prise de conscience, elle a été immédiate ou c'est que rétrospectivement que tu t'en es rendu compte ?
La prise de conscience n'a pas du tout été immédiate puisque moi aussi j'adore le dépassement de soi. En fait, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien et de se dire, ben voilà, j'aime trouver en tout cas dans les candidats et les candidates ce petit plus qui fait que je vais aller présenter en tout cas au manager une personne. Donc moi déjà à la base, j'étais très biaisée en tout cas sur cet effet waouh. C'est vraiment un biais qui nous pousse en fait à surévaluer une compétence hors du commun d'un individu. Pour moi, c'est vraiment ça et on se dit, waouh, mais il est juste génial. En fait, comme ça sort tellement du quotidien, tout de suite, on a embarqué dans l'histoire. Pour moi, ça a été une question de maturité où j'ai lu des articles, j'ai parlé avec d'autres recruteurs, d'autres recruteuses. Et c'est là où je me suis dit que peut-être que j'étais biaisée. Aussi, j'ai travaillé avec la méthodologie WOO, donc de l'entretien structuré. Et c'est là où j'ai fait énormément de recherches sur ça. Comment faire en sorte que j'arrive bien à évaluer, en tout cas, les candidats et les candidates. Et c'est vrai que je me suis rendu compte. Et on m'a dit aussi que souvent, les candidats que je présentais, ils avaient toujours ce petit plus qui fait que parfois, je pouvais discriminer des candidatures. Alors que quand tu cherches un comptable ou une comptable, tu n'as pas forcément besoin d'avoir l'effet waouh, tu vois. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte, mais ça a pris du temps, en toute honnêteté. Et il faut accepter, en fait, ce côté vulnérable qu'on peut avoir aussi dans le recrutement. Et c'est de se dire, ben voilà, il faut toujours essayer de grandir dans nos pratiques. Enfin, ça a pris un petit peu de temps.
Sur l'anecdote que tu nous as racontée, il y a quand même le fondateur ou le hiring manager qui tout de suite te dit, bon, sur les tests, alors le mindset, génial, mais sur les tests, ça ne le fait pas. Là, déjà, sur le moment, qu'est-ce que tu te dis ?
J'ai évolué avant dans des agences de recrutement, des ESN, etc. Et donc, c'est vrai, le côté évaluation n'était pas très présent, notamment sur toutes les parties de culture fine, donc de soft skills, mais aussi d'entretien technique, puisque quand on travaille en agence, on n'est pas embarqué, en fait, dans la totalité du process de recrutement. Donc, c'était assez nouveau pour moi d'avoir un process dans une boîte très tech. Et on me dit, ben voilà, le process de recrutement, tu as le screening avec la méthodologie WOO, l'entretien technique et puis ce qu'on appelait, il y a la WOO interview et après la cultural interview. La partie entretien technique, j'avais beaucoup de frustration parce que je me rendais compte quand même que pas mal de mes candidats ne passaient pas. Et donc, quand moi, je présente mes candidats avec enthousiasme, c'est là où on a énormément discuté avec les managers sur, OK, nous, en entretien technique, on ne peut pas voir tout le monde. Il faut aussi que tu arrives bien à filtrer les compétences techniques. Et donc, grâce à la scorecard, on a trouvé voilà, des questions, des compétences en tout cas techniques que je pouvais évaluer dès le screening et ce qui a aidé derrière les entretiens techniques. C'était assez nouveau, il a fallu beaucoup de discussions et je pense que c'est ça qui est important aussi dans le recrutement, c'est vraiment la relation avec les managers et l'écoute, la discussion et la collaboration, c'est clé.
Si tu devais revivre cette situation, qu'est-ce que tu changerais dans ton comportement et dans ta démarche ? Quelle attitude en fait tu adopterais ?
Quand je suis arrivée, mon parcours de mon process de recrutement n'était pas du tout structuré. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais pas structurée dans mes questions. J'avais un peu les questions bateau qu'on pose en entretien. Et donc, c'est là où j'ai dû me mettre énormément en question, en fait. Et c'est grâce aux rencontres, grâce aux webinaires que j'ai suivis, aux forums que j'ai pu faire, où je me suis dit, j'ai besoin, en fait, de structurer mon process de recrutement.
Quelles sont tes techniques pour le minimiser sur toi, aussi sur les managers pour qui tu recrutes ? Je suis curieuse d'en savoir plus.
Ouais. Et ce que je referais, et plutôt en tout cas, et c'est peut-être là où j'étais un petit peu lente, c'est vraiment de bien structurer ma scorecard. Une scorecard, c'est vraiment en fait une fiche où tu vas vraiment aller définir ce qu'on attend du ou de la candidate en termes de compétences techniques, de résultats attendus et aussi de compétences mindset. De mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça venait en fait du baseball. C'était des cartes qui présentaient au Panini, en fait, les joueurs, tu avais leurs compétences qui étaient écrites sur cette carte-là, tu la retournais et puis tu pouvais voir tous les critères de ce joueur-là. Et donc, ça a été repris en fait de ça. Et donc, la scorecard, c'est vraiment un fichier. Il y a ce qu'on appelle les outcomes, donc ça va être les résultats attendus. Il va y avoir les compétences, donc qui vont être techniques, mais aussi le mindset. Et moi, ce que j'en rajoute aussi, c'est un peu le process de recrutement, parce que c'est important de se mettre d'accord sur le process de recrutement avec le hiring manager. Et après, tu vas retrouver différentes colonnes qui vont être ce qui est attendu. Il va y avoir le critère, c'est comment on va évaluer ce qu'on attend, les questions que l'on va poser, tant pour la partie management que sur la partie RH, et enfin les comportements, donc ce qu'on attend ou pas du candidat ou de la candidate. Et donc, c'est vraiment ça, pour moi, la base d'un recrutement. Et même aujourd'hui, pour moi, c'est très dur de faire passer le message, en tout cas aux managers, parce que souvent, ils me disent « Mais moi, je sais faire du recrutement, tu sais, j'ai pas besoin de faire cette scorecard. » Mais cette scorecard, elle est tellement importante pour déjà nous, en tant que recruteurs et recruteuses, de se dire « Mais qui on recrute, en fait ?» Et donc maintenant, voilà, je ne fais plus de recrutement sans scorecard. C'est plus possible aujourd'hui, parce que ça me permet vraiment d'aller chercher la bonne personne, en tout cas, pour ce poste donné. Et ce qui est aussi très important dans le process de recrutement, c'est d'avoir un peu des garants, je trouve, qui connaissent pas forcément le recrutement et qui sont peut-être moins biaisés que parfois nous, on peut l'être. Et d'avoir plusieurs acteurs, en fait, pendant le process de recrutement. On est tous humains, on a tous des défauts, on a tous nos qualités. Et d'avoir plusieurs personnes qui sont présentes dans le process de recrutement. On dit souvent, notamment, aux managers d'être deux lors des entretiens, notamment techniques et d'évaluation. Parce que parfois, on peut malheureusement être biaisé. Une personne qui peut-être arrive 5 minutes en retard, première impression. Et donc, d'être deux, ça permet d'échanger, d'avoir plusieurs acteurs et actrices dans le process. Ça aide beaucoup, en tout cas, à réduire ces biais. Donc, c'est vraiment les deux choses pour moi aujourd'hui qui me paraissent assez importantes dans le process de recrutement.
Donc, mettre en place un entretien le plus structuré possible. La structuration est clé. Mettre en place et utiliser une scorecard qui recense et récapitule les critères importants pour le poste. Et si possible, ne pas rester seul dans son coin avec son recrutement et faire venir d'autres intervenants pour pouvoir confronter les points de vue.
Si je peux rajouter aussi, c'est faire des pauses dans le process de recrutement. C'est-à-dire que parfois, on a cette folie de recruter rapidement. Et souvent, ça peut arriver à des superbes recrutements et c'est génial, mais il y a quand même pas mal de fois où on s'est trop précipité. En tout cas, moi, quand je regarde un peu en arrière, où voilà, on peut se précipiter rapidement et finalement, on est absorbé par cet effet « waouh, il y a des candidats, mais ils sont juste géniaux en termes de persuasion en entretien ». Et on ne fait pas forcément attention à ça parce qu'on va aller vite, on veut recruter. On a la roadmap qui nous dit que dans 6 mois, on doit lancer le produit. Donc, c'est vraiment faire des pauses et collaborer, parler en fait, soit donc aujourd'hui en visio, mais moi, j'aimais bien aussi quand même les rencontres face à face avec les managers où je peux vraiment parler du candidat, de la candidate, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que les points que j'aimerais qu'il apporte. Et lui, d'avoir son retour ou elle, avoir son retour, c'était aussi important. Donc, il ne faut pas non plus trop se précipiter et faire des pauses pendant son process de recrutement.
Pour se prémunir au maximum contre ce biais, il est essentiel de vraiment travailler l'offre d'emploi afin de la rendre la plus précise et claire possible en bannissant les critères et les compétences floues, génériques et langues de bois. Mais est-ce vraiment réaliste et atteignable comme objectif? Si oui, quels sont tes conseils pour y parvenir, Maud?
Donc là, on va aborder l'écriture des offres d'emploi. Donc, c'est la première porte, en tout cas aujourd'hui, des candidats et des candidates quand ils veulent postuler un poste. J'avais parlé avec un groupe de juniors, de jeunes, en tout cas RH, qui vont arriver bientôt dans le métier. Je leur dis, mais comment vous écrivez vos offres d'emploi? Bon, on fait des copier-coller des offres anciennes. L'offre d'emploi, en fait, c'est un copycat de la scorecard. Et donc, si la liste, en tout cas, des critères techniques et de soft skills ont bien été définis en amont et de se prémunir, en fait, des biais que l'on peut avoir et d'être vraiment, voilà, tangible en tout cas sur ce qu'on recherche, l'offre d'emploi doit être le miroir en tout cas de cette scorecard afin d'être le plus inclusif possible dans le recrutement.
Comment tu perçois l'influence de la culture d'entreprise sur le processus de recrutement et justement sur l'éventuel impact de ce biais d'extraordinairité ?
Surtout dans les startups, on recherche principalement toujours un peu le même profil, quelqu'un qui est agile, flexible et donc inconsciemment ou consciemment, on peut être vite biaisé à cause voilà d'une culture d'entreprise qu'on veut dynamique, alors que des fois voilà ça veut un peu rien dire. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser aussi les fondateurs et les fondatrices lors de la création en fait des valeurs qui vont aussi derrière refléter les comportements qu'on veut voir ou ne pas voir dans l'entreprise et qui est lié en fait à la base de la scorecard aussi sur la partie notamment mindset qui peut être très fort. Et donc là, l'objectif, c'est sensibiliser, promouvoir auprès des fondateurs et des fondatrices le fait que la recherche, en tout cas, de profil waouh n'est pas la composante, en tout cas, d'un bon recrutement et d'une bonne équipe. En fait, une variété de profils fait que l'équipe, en fait, est plus forte, plus créative par la suite.
Quel est ton avis sur les recommandations qui visent à éviter de prendre en compte des critères dont on n'a pas forcément besoin, qui ne sont pas indiqués justement sur l'annonce et sur l'offre d'emploi même, comme par exemple ne pas prendre en compte, ne pas regarder les loisirs? Qu'est-ce que tu en penses?
Ça, c'est la question CV ou pas CV. C'est en ce moment, on est sur des discussions sur ces sujets-là. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est des choses sur lesquelles j'essaie en tout cas d'évoluer et de réfléchir. j'ai quand même ce petit biais de l'effet waouh, donc j'aime bien quand même regarder les hobbies et d'aller aussi creuser cette partie-là. En entretien, ça crée du lien, ça crée de l'humanité aussi avec la personne. C'est, qu'est-ce que tu aimes faire en fait le soir? C'est quoi un petit peu ce qui te motive dans la vie? Mais c'est plutôt la question, c'est est-ce que le CV aujourd'hui en fait est nécessaire et est-ce qu'un profil LinkedIn, t'as pas la partie hobbies par exemple? C'est vraiment assez direct, t'as les expériences, tu peux avoir plusieurs choses. Donc, moi, je serais plutôt partisan de me dire, on arrête de recruter au CV, on a la scorecard, donc les gens vont postuler, on va être fort au niveau de l'entretien parce qu'on sait qui on veut recruter. Et c'est plutôt comme ça que je le vois, que se dire, bon, j'arrête de regarder l'hobbies. Moi, j'aime bien parler des hobbies.
Pour finir, quel serait pour toi le meilleur conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour atténuer les effets néfastes du biais d'extraordinaireté? Si on devait en retenir un seul.
C'est vraiment sensibiliser les managers et pas lâcher le bout, en fait, et se dire, bon, ils n'ont pas le temps de faire la scorecard, on fait un truc vite fait, ils nous font les offres, voilà. C'est vraiment de prendre le temps, 45 minutes, une heure avec lui ou la manager, et de vraiment aller creuser sur ce qu'il ou elle recherche, d'établir ces scorecards, les questions, les comportements qui vont aider, en tout cas, dans la fiabilité et l'inclusivité du process de recrutement.
Les managers sont pas toujours extrêmement enthousiastes à l'idée de consacrer du temps pour ça.
Yes. C'est vraiment se dire, moi, je suis expert recrutement. Et c'est vraiment se positionner en tant que tel. Récemment, une manager m'a dit, écoute-moi, mon entretien tech, c'est 10 heures. Non. Donc, c'est vraiment se positionner. C'est pas facile d'avoir cette posture, en fait. C'est un peu une posture de coach pour le recrutement. Et on n'apprend pas ça aujourd'hui, de se dire, mais comment négocier? Comment être persuasif? Comment, en fait, répondre à des objections de managers qui peuvent nous dire, écoute, j'ai pas le temps, je suis dans le rush, j'ai juste besoin de recruter, je sais faire. Non, on prend le temps. J'ai besoin de savoir si tu veux un recrutement qui soit fiable, positif et inclusif. J'ai besoin de passer une heure avec toi et on décrit ce que tu attends, ce qu'on voit, la culture de l'entreprise et les comportements. Et moi, j'avance pas sans ça.
Quelles sont pour toi les compétences et ou formations nécessaires pour recruter en minimisant l'influence du biais d'extraordinaireté et même de manière beaucoup plus générale des biais cognitifs dans leur ensemble?
Je peux citer Lo Bernard et sa formation T-Shept qui appuie beaucoup sur la partie des biais. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit professionnaliser le recrutement. Il y a très peu de formations. C'est beaucoup du terrain et je trouve ça dommage parce que on n'apprend pas trop le recrutement en école. Aujourd'hui, quand tu vas en école RH, on t'apprend d'autres choses et pas beaucoup à recruter et toutes les compétences de copywriting qui sont pour moi aujourd'hui nécessaires. Et donc, c'est sensibiliser et aussi nous-mêmes, en tant que recruteurs et recruteuses, de proposer aussi des formations à son entreprise, pas que pour nous, mais aussi, pourquoi pas, pour les managers, sur des questions, en effet, d'écriture inclusive, comprendre les biais et en avoir conscience, parce que je pense que c'est important, en tout cas, de partager, de connaître ses limites. L'objectif, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vraiment professionnaliser le recrutement. Il y a quelques formations aujourd'hui qui existent. Il faut continuer sur cette lancée. Ouais.
Et il faut, tu l'as dit, former les recruteurs,
oui.
Mais pas seulement,
pas
former
seulement.
Toutes les parties prenantes du recrutement si on veut atteindre l'objectif et tendre vers le recrutement le plus objectif, juste et équitable possible. Maude,
oui.
Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure?
Moi, je veux juste dire que nous sommes des individus imparfaits et qu'il faut qu'on ait surtout conscience de ces biais-là, de les connaître, de les définir. Et je trouve génial, en tout cas, ce que vous faites avec WeSuggest, de pouvoir un petit peu décortiquer tous ces biais-là et nous aider au quotidien, en tout cas, de mieux recruter et d'être plus inclusif dans notre process de recrutement.
Grand merci, Maude.
Merci, Marie-Sophie, de m'avoir invitée.
Qui ne serait pas impressionné ou enthousiasmé par un candidat possédant des caractéristiques sortant de l'ordinaire et tenter de l'embaucher sur le champ? Mais, comme vous l'aurez compris à l'écoute du témoignage de Maude, ce serait une grave erreur de tirer des conclusions hâtives de ces caractéristiques, certes extraordinaires, mais non pertinentes pour le poste à pourvoir. Heureusement, il existe des moyens concrets pour atténuer les effets néfastes de ce biais dans nos décisions de recrutement, comme notamment la scorecard et l'entretien structuré. Nous ne nous voilons cependant pas la face, s'il est possible d'en atténuer l'impact, il est toutefois impossible d'éradiquer complètement les biais cognitifs. Car comme le disait si bien Einstein, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Vous venez d'écouter Histoire de recruteur, le jour où j'ai été aveuglée par le parcours hors du commun d'un candidat. Sachez que vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous.